Bonsoir à tous. J'aimerais exprimer combien cette musique spéciale m'a touché. C'était vraiment belle. J'ai pu repérer le Madagascar. Je connais un peu le Madagascar, même si ça fait 10 ans depuis ma dernière visite. J'ai repéré, je crois, le Bénin ou le Togo. J'ai pas pu distinguer, mais j'ai vu le nom qui est vraiment un nom de la région. La Suisse, Bordeaux évidemment, et la partie francophone de l'État de Washington. Bon, le 8 mai 1864, 3 ans après le début de la guerre civile américaine, le 6e corps du major général John Sedgwick engage au combat avec l'ennemi dans les bois denses du nord de la Virginie. La force se poursuit le lendemain, alors que les hommes de Sedgwick sondent la ligne d'escarmouche pour mieux aligner leurs artilleries. À 1000 mètres de là, les tireurs d'élite confédérés harcèlent les hommes de Sedgwick, rendant leur tâche d'autant plus difficile. Lorsque les balles sifflaient, les soldats se mettent à l'abri. Mais Sedgwick, cependant, n'a pas été impressionné. Il s'est promené à découvert, les réprimandant. Quoi? Des hommes qui esquivent comme ça pour une seule balle? Que ferez-vous quand ils ouvriront le feu sur toute la ligne? Ces hommes ont eu honte, mais ont continué à se mettre à l'abri alors que les balles sifflaient. Encore Sedgwick les a réprimandés. Pourquoi esquivez-vous comme ça? Il ne pourrait pas toucher un éléphant à cette distance. Quelques instants plus tard, le sifflement d'une balle se termine par un bruit sourd. Le général Sedgwick est tombé mort, touché par une balle sous l'œil gauche. Les paroles du général Sedgwick sont désormais classées dans les catégories des dernières paroles célèbres. Des paroles prononcées par les hommes fiers ou trop confiants, juste avant que le destin ne révèle leur vulnérabilité. Que le général Sedgwick ait été trop confiant dans son invisibilité, ou qu'il ait simplement eu une piètre opinion des capacités de l'ennemi, ses paroles et sa mort illustrent les dangers d'un manque d'humilité, comme nous venons d'entendre pendant le premier sermon. Aujourd'hui, j'aimerais explorer ce qu'est que l'humilité et pourquoi elle est si importante pour nous. Commençons par examiner ce qu'est que l'humilité. Donc, pour notre point numéro 1, le point numéro 1, c'est qu'est-ce que la véritable humilité? Le point numéro 1, qu'est-ce que la vraie humilité? Suivez-moi à Jérémie 17, 9. Jérémie 17, le verset 9. Vous voyez, pour être honnête, le général Sedgwick était bien plus que ce que ces dernières paroles fatidiques laissaient entendre. Ces hommes l'appelaient affectueusement « Oncle Jean », ce qui n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre si Sedgwick était un homme arrogant. Il n'en était pas. Mais tout comme nous, Sedgwick est né avec un défaut. Et dans ce cas, c'était un défaut fatal. Découvrons ce défaut, Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux, par-dessous tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Vous voyez, le défaut du général Sedgwick était que son corps le trompait. Il l'a amené à croire quelque chose qui n'était pas vrai, soit qu'il était invisible, soit que l'ennemi n'était pas assez bon pour le frapper. En fin de compte, le cœur du général, lui, a menti. Il lui a menti sur qui il était et sur ce dont l'ennemi était capable. Et nous ne sommes pas différents du général Sedgwick. Tout comme lui, nous avons ces esprits faibles et physiques. Nos esprits semblent être enclins à croire que d'une manière ou d'autre, moi, je suis meilleur que les autres. Prenons le psaume 51. Le psaume 51, le verset 8. Le psaume 51, le verset 8. Le roi David a reconnu cette même chose en lui-même. Vous voyez, le cœur de David lui a aussi menti. Dans ce chapitre, nous voyons le désarroi de David qui réfléchit à son péché avec Bathsheba et Uri. Et David fait cette déclaration profonde sur le désir de Dieu pour nos cœurs, le psaume 51, le verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Vous voyez alors que notre cœur tend naturellement vers la tromperie, le désir de Dieu pour nous, et d'arrêter de nous tromper nous-mêmes. Son désir est que nous cessions de nous mentir à nous-mêmes, et en particulier son désir est que nous arrêtions de nous mentir à propos de qui nous sommes. Le mensonge que nous décrivons ici n'est autre que le mensonge de l'orgueil. En fait, une bonne façon de définir l'orgueil est de dire qu'il s'agit du mensonge que nous nous racontons à nous-mêmes en disant que nous sommes bien meilleurs que les autres. Et nous savons que c'est mal de mentir, évidemment. L'humilité est cependant le contraire de l'orgueil. Donc, si l'orgueil est un mensonge, alors l'humilité, c'est la vérité. Ce serait une définition assez précise. Cependant, la définition de l'humilité donnée par le dictionnaire peut nous induire en erreur. Prenons l'exemple de Larousse. Selon Larousse, l'humilité est sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, c'est bon jusqu'ici, de ses faiblesses, toujours bien, et est porté à rabaisser ses propres mérites. Le dictionnaire nous dit que l'humilité, c'est rabaisser ses propres mérites. Mais cela nous pose un problème. Vous voyez, s'il est mauvais pour nous de croire à un mensonge sur notre grandeur, ne serait-il pas également mauvais pour nous d'avoir une évaluation trompeusement basse de ce que nous sommes? Si Dieu désire que la vérité, pas le mensonge, mais la vérité soit au fond du cœur, ne devrions-nous pas, en tant que chrétiens, être tout à fait honnêtes quant à ce que nous sommes et qui nous sommes, et nous efforcer donc à faire une évaluation honnête de qui nous sommes. Alors, l'humilité, c'est la vérité au fond du cœur. Passons maintenant à notre deuxième point, et nous allons aller plus loin. Le deuxième point, c'est que chaque don dont nous sommes fiers vient de Dieu. Le deuxième point, chaque don dont nous sommes fiers, ça vient de Dieu. Nous avons donc vu que nous devons être honnêtes quant à qui et ce que nous sommes par rapport aux autres humains. Mais même si nous y parvenons, nous pouvons toujours, par défaut, avoir une image très orgueilleuse de nous-mêmes. Suivez-moi à Jacques 1, le verset 17, Jacques chapitre 1, le verset 17. Voyez-vous, même si nous avons une idée absolument précise de qui et de ce que nous sommes par rapport aux autres, il manque encore une dimension cruciale à notre compréhension. Et pour comprendre cette dimension, nous devons lire ce que Jacques dit de nous. Il nous dit que, Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, c'est-à-dire ça vient de Dieu, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ainsi, même si nous sommes capables de dire « Oui, je suis plutôt bon dans ce domaine », nous devons reconnaître que chaque don que nous avons vient de Dieu, chacun d'entre eux, et que nous, si nous soyons intelligents, forts, beaux, spirituels ou autres, ce sont tous des dons venant de Dieu. Donc, pour en revenir à ce que j'ai dit il y a un moment, si nous nous attribuons ces dons venant de Dieu, même si nous sommes tout à fait honnêtes dans notre auto-évaluation par rapport aux autres, nous pouvons toujours avoir par défaut une image de nous très fiers. Passons à Romains 7. L'épître aux Romains 7, le verset 18. Ainsi, Jacques caractérise tous nos points positifs comme venant de Dieu. Et Paul, ici, dans Romains 7, parle du reste de ce que nous sommes dans l'épître aux Romains. Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, toute chose, tout ce qui est bon en nous, tout ce qui est bon en nous, ça vient de Dieu. Et le reste, ce qui reste, après qu'on ôte les dons venant de Dieu, tout ce qui reste est assez déplorable. Ça nous décrit très bien. Même notre capacité à respirer, ça vient de Dieu. Bon, pour être clair, Dieu nous donne ses dons parce qu'il nous aime. Il est notre Père, Abba. Il ne veut pas que nous méprisions ses dons et que nous nous sentions mal de les avoir. J'essaie juste de mettre ce que nous sommes dans le bon contexte ici, en considérant d'où vient tout ce qui est bon et tout le reste. Ça donne un peu de point de vue de Dieu. Et il est donc évident que nous aurions tort de définir l'humilité uniquement comme le fait d'être parfaitement honnête quant à la façon dont nous nous comparons aux autres. En fin de compte, nous sommes tous faits de la même matière inférieure. Nous sommes tous faits de l'argile. De l'argile enrichie par les dons de Dieu. Une fois encore, poussons le sujet de l'humilité un peu plus loin. Examinons le point suivant. Voyons comment nous nous comparons à Dieu cette fois-ci. Voyons comment nous nous comparons à Dieu. Aucune partie de la Bible ne traite peut-être du contraste entre l'homme et Dieu de manière aussi approfondie que le livre de Job. Il n'y a aucun doute que Job se regardait comme juste. Son livre nous le dit clairement. Mais souvenons-nous de ce que le gros du livre traite. Les enfants de Job ont été tués. Il grattait les plaies de son corps d'un tesson. Sa richesse s'est évaporée. Sa femme lui dit de maudire Dieu et de mourir. Ses amis le consolent en le traitant de méchant. dans les mêmes circonstances, n'importe lequel d'entre nous aurait craqué et se serait défendu. Notre propre attitude moralisatrice aurait été exposée tout aussi facilement que celle de Job. Mais comment était Job avant ses pertes? Dieu résume Job en disant que il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre,